s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée à un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant il les laissera aller. » Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi, vient à toi. Plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ?»« Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle ?» Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Alors les vêtements, les branches, étaient une pratique, à l'époque bien sûr, ancienne, pour rendre des hommages à un roi, par exemple, qui revenait de la guerre et qui avait remporté une victoire, ou d'un grand chef militaire, bien sûr. Mais... faut-il le dire ce matin, nous n'allons pas bénir des rameaux. On ne fera pas non plus le 2 avril. Hein, on ne va pas bénir des branches de buis, d'olivier, de laurier, de palmier, je ne sais pas trop. Bien sûr que non. On ne va pas les bénir pour les emmener dans nos maisons en espérant que ces choses-là nous apportent quelques protections, quelques bonheurs. Bien sûr que non. Notre foi, elle est en Dieu et en sa parole. Notre foi ne repose pas sur des choses matérielles. C'est Proverbe 10:22 qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors si vous voulez être riche, désirez la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction du Seigneur. Alors la foule, bien sûr, on le sait bien, elle attendait un libérateur du joug romain. On comprend un petit peu leur désir quand même d'être délivré de ce joug romain. Mais le Messie qui entre dans Jérusalem, il vient là souffrir la croix pour tous les pécheurs du monde. Pour tous les pécheurs. Il va se charger de nos péchés. Il va subir le châtiment. Il est écrit dans Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, il va en faire l'expiation, il va payer le prix de notre rachat. Et c'est une raison d'ailleurs pour laquelle nous pouvons être miséricordieux avec le pécheur. Parce que Christ a porté son péché. Hein ? Alors nous, on n'est plus là pour condamner le pécheur, mais pour condamner le péché, bien sûr. mais pas pour condamner le pécheur. Christ a subi le châtiment pour nous. Bien sûr, il appartient au pécheur de se repentir et de mettre sa foi en Jésus-Christ et dans son œuvre. Bon, Jésus, nous savons, sortira de la ville quelques jours plus tard, portant sa croix et montant sur le Golgotha. Et c'est vrai, quand on y pense, quand même, on a le cœur qui se serre. Je ne sais pas si vous êtes restés avec cette fraîcheur de la foi. Pensez que notre Seigneur est là, qui s'écroule en montant sur le Golgotha, qui va être crucifié là. Alors, il était suivi, bien sûr, d'un cortège beaucoup moins sympathique. Nous avons là, on pourrait dire, un exemple du grand malentendu qu'il y a si souvent entre nos pensées humaines et celles de Dieu. Nos prières, nos décisions, quand même, il faut l'admettre, elles ne sont pas toujours accordées avec la pensée du Seigneur, la pensée de Dieu. Hein, elles ne sont pas toujours accordées sur, on pourrait dire, sur le diapason divin. Bien sûr, ce passage, vous le connaissez très bien, c'est celui d'Ésaïe 55. Hein, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Or, la parole, pour bien imaginer la différence qu'il y a entre nos pensées humaines et les pensées si sages et miséricordieuses de Dieu, elle nous parle de l'éloignement entre les cieux et la terre. On le réalise encore plus aujourd'hui avec toutes les découvertes récentes. Les cieux, c'est infini, on n'en trouve pas le bout. Vous voyez la différence qu'il y a entre les pensées de Dieu et nos pensées humaines. Combien nous avons besoin que le Saint-Esprit nous éclaire? Combien nous avons demandé que le Seigneur nous révèle? Nous avons besoin de révélation. Que le Seigneur nous aide. Alors, il faut déjà, vous savez, un miracle de la grâce pour que quelqu'un se convertisse. Mais certains, vous savez, on les a vus venir quelquefois pendant des mois, pendant des années dans les assemblées. Et puis, non, ils ne réagissaient pas, ils ne bougeaient pas. Alors, certains se convertissaient tout de suite, c'était encourageant quand même. Mais certains, non, ils ne recevaient pas cette lumière dans leur cœur. Je me souviens, moi, d'un frère, d'un homme plutôt, qui venait aux réunions. Et puis, au bout de quelques dimanches, j'étais quand même allé le voir pour lui dire, savoir, je lui dis, peut-être un candidat au prochain baptême, quand même. On a dit, est-ce que vous priez chez vous? Et cet homme de me répondre, « Oh là là, oui, je prie beaucoup, je prie pour gagner au loto. » Il avait entendu le message de l'Évangile pendant plusieurs dimanches. Il avait entendu nos chants. On est compte? Mais oui, il avait encore quelques progrès à faire. Vous en doutez bien. C'est vrai que dans la prière modèle que le Seigneur nous a laissée, hein, on remarque qu'il nous enseigne de prier le Père. Et Jésus n'a pas enseigné autre chose. Et il a enseigné de prier pour que la volonté du Père soit faite. Et pour que la volonté du Père soit faite, nous avons besoin du secours du Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire dans nos prières. Alors, excusez-moi, mais aujourd'hui, je suis en panne sèche. Vous savez ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, 26, que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit est avec nous, hein ? Intercesseur. L'Esprit intercède. Il est notre aide dans la prière. Il faut en être conscient, nous avons besoin de demander au Seigneur qu'il nous fasse grâce pour ça, que nous réalisions bien qu'en nous, l'Esprit intercède. En nous. Jésus l'a dit, il sera en vous. Et c'est en nous qu'il intercède aussi par des soupirs inexprimables. Chouraki a traduit d'ailleurs par d'ineffables, ineffables gémissements. Ah oui, c'est merveilleux quand même, hein. Que le Seigneur nous aide. Le Saint-Esprit est avec nous, et il est en nous, pour nous aider dans l'intercession, pour nous éclairer dans nos sujets de prière. Alors, il y a une foule nombreuse qui rend les honneurs à Jésus. Mais pour eux, vous remarquerez quand même que c'est le prophète. C'est le prophète de Nazareth. C'est Jésus le Galiléen. Vous imaginez, vous, quel honneur, quelle fierté pour les Galiléens qui étaient là dans la foule. La Galilée, c'était souvent méprisé, hein. Oh, là, il y avait le prophète qui était là. Tout le monde l'acclamait. Ils étaient fiers, hein, certainement. Ils devaient être très, 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 très fiers. Mais leur espérance était fausse, bien sûr, nous le savons. Le roi qui venait, venait pour payer le prix de leur péché. Alors la foule, elle utilise les paroles du psaume 118, qui étaient chantées à l'occasion des fêtes. Hein. Hosanna, ô Éternel, accorde le salut. Hosanna, ô Éternel, accorde le salut. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et quelques jours plus tard, la foule criera « Crucifie, crucifie ». Alors nous, nous ne doutons pas de la divinité de Jésus-Christ, j'espère. Hein, bien sûr que non, comme certains qui pourraient douter, mais nous pourrions quelquefois ressembler un petit peu à cette foule quand même. Hein, vous savez, on est humain. Je ne sais pas si vous êtes parfait, moi je ne suis pas encore... Mais qu'a demandé à mon épouse, elle vous le dira. Mais quand Jésus n'a pas tout à fait la place qu'il devrait avoir dans nos vies, quand on considère Jésus comme le dépanneur, vous savez, comme celui qui vient seulement aider, quand il n'a pas vraiment la place de Seigneur et de modèle parfait dans nos vies. Nos cultes aussi doivent être un reflet du Seigneur Jésus, non pas du monde et de ses pratiques. J'ai apprécié ce matin combien de fois on a dit le nom de Jésus. Oh, comme ça me fait du bien, moi. Ah, vous, je sais pas, mais ça résonne dans mon cœur. Jésus, quand je le dis, moi, ça me fait du bien. Et vous aussi ? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La foi de l'Église primitive, vous savez, bon, on emploie peut-être un mot que vous employez tous les jours, mais était christocentrique. C'est-à-dire que Jésus était vraiment le centre. Jésus était vraiment le centre de tout. Alors, nous nous en écartons jamais et n'oublions pas de prononcer souvent son nom. Amen, Jésus. C'est ce que dit Philippiens 2:10. Dieu l'a souverainement élevé. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, c'est pas écrit au nom de Dieu, hein, c'est écrit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Amen.
Amen. Nous connaissons ce que Jésus dit, d'ailleurs, de la mission du Saint-Esprit sur la terre. Il me glorifiera, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alors, si c'est l'Esprit de Dieu qui m'anime, je vais bien sûr servir, je vais parler de Jésus, je vais servir à la gloire de Jésus-Christ. Quand, bien sûr, nous ne réalisons pas la dimension spirituelle du culte, on peut ressembler aussi un petit peu à cette foule, hein. Ce que Dieu attend de nous, vous savez, on trouve par exemple Philippiens 3. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Et qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Vous savez. C'est arrivé quelquefois, bien sûr, peut-être à nous aussi, hein, qu'on soit entraîné un peu par l'ambiance. Vous pouvez être entraîné un peu par l'ambiance. On peut passer un moment agréable sans réaliser la dimension du culte. Vous savez que nos cultes, normalement, se passent dans le lieu très saint de la présence de Dieu. Le voile a été déchiré, c'est pour ça. Hein. On est dans la présence du Seigneur. Quel respect, quelle crainte respectueuse nous devons avoir dans nos cœurs. Hein, les Israélites, eux, ils y restaient sur le parvis. Hein. Oui, oui. Alors, c'est vrai que le temps qu'on appelle la louange aujourd'hui, c'est pas un divertissement. Hein. Bon, on ne va pas s'attacher qu'à la musique. Hein. On s'attache à ce que l'on prononce. Et ce sont souvent des prières qui montent vers le Seigneur. Les mots ont de la valeur. Ils ont de l'importance. De toute façon, le Père ne se réjouirait pas de voir ses enfants qui s'amusent. Hein. Ce qu'il demande, Jésus l'a dit, des adorateurs en esprit et en vérité. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est dans Romains chapitre 1er, « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils ». C'est littéralement « Dieu à qui je rends un culte en mon esprit dans l'évangile de son Fils ». Alors bien sûr, on ne va pas se réjouir seulement une heure. On va pas se réjouir seulement une heure avec la famille de Dieu et puis ramer toute la semaine avec un cœur tout vide, tout triste. Ce serait dommage. Hein, ce n'est pas le but. Hein. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir une sainte coupe qui déborde. Et qui déborde de louanges tous les jours de la semaine. La louange, c'est pas une demi-heure le dimanche matin. Nous le savons bien. Que le Seigneur nous aide. Tous les jours, il nous faut puiser à la source de la vie afin de réellement rendre notre culte au Seigneur. Or, quel que soit le lieu où on est dans la semaine, en Jésus, en esprit, nous sommes assis dans les lieux célestes, en Christ, en esprit. Que le Seigneur nous aide à garder cette communion avec le Seigneur. La vie sera beaucoup plus facile et beaucoup plus légère, croyez-moi. Alors, il est bon que nous arrivions le dimanche matin avec des coupes toutes pleines. Non ? Moi, je crois que c'est mieux quand même, quand c'est possible. Hein ? Et on va tous déborder en même temps. Ah, et bien, le Seigneur va se réjouir. Hein ? Ça va glorifier le Seigneur. Nous sommes ensemble dans la maison de Dieu, nous sommes à l'écart d'un quelque sorte d'un monde rebelle. Là, c'est une oasis ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une oasis le dimanche matin. Amen. C'est vrai que ce monde, vous savez, c'est une vaste essoreuse. Ouh là 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 là. Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on arrive un peu secoué, qu'on arrive un peu vidé, on est passé dans les roses. Ça peut arriver, mais ça ne doit pas être une règle non plus. Hein. Ça ne doit pas être une règle. Puissions-nous arriver là, le dimanche matin, préparer notre culte. C'est bon de préparer, hein, avant de venir, de passer un moment à lire un peu la parole. Il faut se lever un petit peu plus tôt. Ah, bon. Enfin, c'est pas mal, hein. De prier le Seigneur, de prier pour le moment que nous allons passer, de prier pour nos frères et sœurs, afin que chacun soit béni, soit encouragé. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Mais nous sommes appelés à un banquet spirituel, puisque Jésus est là. C'est ce qu'il a dit. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis... Là où deux ou trois sont synagogués, hein, c'est le mot grec, en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un banquet avec le Seigneur. D'ailleurs, si vous reprenez la lettre à la Odyssée, qu'est-ce qu'il dit? Remarquez déjà qu'il est à la porte.
Je crois que cette génération doit s'interroger. Moi, je suis dans la dernière ligne droite. Mais les années passent. Mais cette génération doit s'interroger, parce que là où dit ça, le Seigneur est dehors. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur veut, pardon, c'est pas un souper un soir. C'est un souper continuel. Hein? Je souperai avec lui. La pensée, elle n'est pas juste une heure. La pensée, c'est une pensée continue. Que le Seigneur nous fasse grâce, mes frères et sœurs. Alors Jésus n'est pas entré dans le temple, n'est pas arrivé à Jérusalem sans entrer dans le temple. On avait trouvé pratique l'installation des commerçants sur le parvis extérieur du temple, à l'endroit qui était appelé le parvis des gentils. Et parce qu'il y avait les méchants et les gentils, mais les gentils, c'était les non-juifs. Mais est-ce que ça ne symbolise pas l'empêchement qu'il y avait quelque part pour les païens de pouvoir accéder au temple, puisque l'emplacement qui leur était dédié était occupé par des marchands. Jésus dira d'ailleurs, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Par leur exemple, ils fermaient la porte déjà au peuple d'Israël, puisqu'ils combattaient Jésus. Mais ils limitaient aussi l'accès des nations à la maison de Dieu. Et n'oublions pas que ce peuple avait pour mission de révéler le Dieu vivant et vrai, le Dieu unique. Alors, on remarque Ésaïe 56, par exemple. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Et je les réjouirai dans ma maison. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et les hommes se mettaient en travers. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous avons, nous aussi, un parvis. C'est en quelque sorte ce que les autres voient de nous. Les gens dans le monde, quelquefois, ils montrent leur corps tout ce qu'il le faut. Bon, ça c'est autre chose. Bien sûr, les chrétiens, les chrétiennes ont plus une attitude de pudeur et plus réservée, modeste. Mais tous les gens, ils voient notre manière de vivre. Notre manière de vivre, c'est notre parvis, en quelque sorte. Est-ce qu'ils voient Christ? Est-ce qu'ils voient sa douceur? Aïe! Est-ce qu'ils voient son amour? Est-ce qu'ils voient son humilité? Est-ce que nous sommes un reflet? Notre parvis est un reflet de sa pureté. Bon, nous avons des progrès à faire. Hein. Que le Seigneur nous aide. Il faut aussi le désirer. Est-ce qu'il voit notre honnêteté matérielle? Est-ce qu'il voit notre honnêteté intellectuelle? Oula! M'est arrivé, moi, dans le monde, de rencontrer des gens qui étaient vraiment malhonnêtes sur le plan intellectuel. Sur le plan matériel, non. Mais ils essayaient toujours de vous faire dire ce que vous n'aviez pas dit. Et c'était très difficile de discuter avec eux. Eh bien, c'est arrivé aussi, quelquefois, avec des frères, malheureusement, mais que le Seigneur leur pardonne, que le Seigneur leur fasse grâce, qu'il les éclaire. Est-ce que notre parvis est encombré par l'esprit de ce siècle? Encombré par les petites choses qui ne sont pas du domaine de la vérité, plutôt du domaine du malin. L'Ecclésiaste, vous connaissez, les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. Ah oui. Et nous sommes appelés, c'est notre vocation, à répandre en tout lieu la bonne odeur de Jésus-Christ. Amen. à ne pas vivre d'apparence, à être vrai. Le parvis extérieur, en quelque sorte, de l'enfant de Dieu, se doit d'être conforme aux standards divins, bien évidemment, mais pas encombré par les choses de ce siècle. Or, les incroyants ne voient que notre parvis. Mais est-ce que ce parvis fait envie? C'est la bonne question. Ou c'est un repoussoir? Est-ce que nous leur donnons envie d'entrer dans le temple avec nous? Ou nous leur donnons envie de fuir? Notre langage fait partie aussi de notre parvis. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous dit la parole de Dieu. Nous sommes appelés à avoir un langage qui soit honorable, qui fasse honneur à notre Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas appelés à cacher notre foi, mais à la confesser. Vous savez qu'une foi qui se confesse est une foi qui s'affermit. Si vous confessez votre foi, autour de vous, votre foi, elle va s'affermir. C'est une chose certaine. C'est sûr que si quelqu'un, d'autre part, a une vie impeccable, bon, l'honneur va être pour qui? Pour lui. Il ne va jamais servir au Seigneur Jésus. Il ne va jamais glorifier le Seigneur Jésus. Bien sûr que non. Or, si, bien sûr, nous ne confessons pas notre foi en Jésus-Christ, bien, nous serons quelquefois honorés. On dira, oh, ça, c'est quelqu'un de bien. Mais Jésus ne sera pas glorifié. Alors qu'on reçoit des inconvertis, quelquefois on pourrait être gêné, dire, on va pas rendre grâce, c'est des incroyants. Eh bien, faites-le. Faites-le. Et par expérience, je peux vous dire que si vous priez pour eux de tout votre cœur, par exemple s'ils sont malades, ou s'ils ont un membre de la famille en difficulté, eh bien, vous verrez après la prière, il y aura des yeux humides. Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de courage. Amen. Ne pas baisser les bras, bien au contraire. Une autre pensée qui concerne le parvis, c'est qu'on peut faire des différences avec des personnes qui ont un anneau d'or ou un vêtement magnifique, alors que certains peuvent être misérablement vêtus. Qu'est-ce que Jacques nous dit, l'épître de Jacques? Elle nous en parle de ça, de ne pas faire de différence entre le riche et le pauvre. Jacques, Céphas et Jean ont pu dire à l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul le dit dans Galates 2:10, ils nous recommandèrent seulement. Alors ça m'a toujours étonné. Ça m'a toujours étonné quand même. Ce seulement, là, qu'est-ce qu'il vient faire là? Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, et l'apôtre peut dire ce que j'ai bien eu soin de faire. Mes frères et sœurs, est-ce que nous souvenons des pauvres? On ne peut pas donner plus qu'on a, c'est sûr. Mais nous sommes des riches sur cette terre. Quand je vois certains pays, la misère, et nous sommes des gestionnaires de Dieu. Rien ne nous appartient, là, pour l'instant, on est héritier de tout, en Jésus-Christ, mais rien n'est à nous. On peut dire, ma maison, ma voiture, mon compte en banque, non, c'est pas à nous, c'est au Seigneur d'abord, et nous sommes les gestionnaires de Dieu. Un jour, nous serons devant le tribunal de Christ, et nous rendrons compte de notre gestion. Et de notre gestion matérielle aussi. Que le Seigneur nous aide et nous éclaire. Bon, pour tout tard encore. Je ne voudrais pas vous tenir trop longtemps. Mais la maison de Dieu est une maison de prière pour toutes les nations, le Seigneur l'a dit. Alors on s'est quelquefois contenté de considérer la purification du temple sous l'aspect des commerçants malhonnêtes qui s'étaient là installés sur le parvis. Même les gens du monde emploient cette expression « les marchands du temple ». Vous l'avez entendu aussi, on parle des marchands du temple. Moi, j'ai travaillé dans le commerce, hein, je peux vous assurer que c'est incroyable l'imagination humaine pour tromper son prochain, pour le voler. Oh là là, les stratagèmes, les choses surprenantes. Puis c'était pas pour voler une orange. C'est quelque chose. C'est l'œuvre de l'adversaire, tout ça, qui entraîne ce monde de plus en plus dans la malhonnêteté. On est catastrophé, surpris. Je n'en revenais pas, moi, de certaines choses que j'ai découvertes comme ça. Bon, ce n'est pas dans la police, hein. Mais Jésus n'est pas un simple visiteur. Le temple, c'est sa maison, il y manifeste son autorité, c'est normal. Et nous remarquons que dans notre lecture, Jésus fait quelque chose que nous ne savons pas faire et que nous n'osons souvent pas faire. Hein, il va se associer tout à fait librement les paroles de deux prophètes. D'Ésaïe 56, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et de Jérémie 7, 11, est-ce à vos yeux une caverne de brigands, cette maison, qui est appelée de mon nom? Puis il va faire le fameux reproche, bien sûr, qu'il a fait. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous rendez compte? Je ne sais pas si vous rendez compte. Le temple de Dieu. Que le Seigneur fasse que ce temple soit toujours une maison de prière. Jamais, ou une salle de musicaux, jamais, je ne sais quoi. Que le Seigneur permette qu'il soit toujours une maison de prière. Amen.
Amen.
Amen. Alors l'Église est bien plus qu'une organisation, elle est un organisme vivant. Hein, nous en sommes ses membres, nous le savons. Et celui qui se nomme frère, qui se nomme sœur, est un membre du corps de Christ. Il ne vit plus pour lui-même, mais il vit pour son Seigneur. Il vit pour Jésus. Il prend part aux souffrances des autres. Et il y a la compensation quand même. Il prend part aux joies des autres. Alors n'hésitez pas à partager aussi vos joies, mais n'hésitez pas à partager vos souffrances. Donc, nous sommes là pour prier les uns pour les autres pour les uns. Que chacun sache qu'il a sa responsabilité dans l'avancement spirituel de ses frères et sœurs, ou dans leur ruine s'ils venaient à se perdre. Il faut que nous en soyons conscients. Hein. Nous sommes membres les uns des autres. Mais que chacun sache aussi que les frères et sœurs l'aiment. Que chacun sache que les frères et sœurs l'aiment. Que chacun sache et sentent que les frères et sœurs l'aiment. C'est dramatique quand on entend des réflexions, il n'y a pas d'amour dans l'Église. S'il n'y a pas d'amour, mon ami, c'est parce que toi, tu n'en amènes pas, sinon il y en aurait. Non, amen. Aimons-nous les uns les autres, amen. C'est la parole de Dieu qui nous le demande et qui nous en donne le commandement, d'ailleurs. Mais bon, ça ne doit pas être quelque chose de difficile, là. Si l'amour du Seigneur est dans nos cœurs, il va déborder autour de nous, sur nos frères et sœurs, bien sûr, d'abord. Alors Jésus veut voir, bien sûr, son Église, remplie non pas de l'esprit du monde, non pas d'un feu étranger, mais de son amour, de sa joie, de sa paix, de son esprit. Notre patrie, elle n'est pas ici-bas, Nous sommes témoins de Jésus-Christ ici-bas. Nous sommes des missionnaires, les uns des autres. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes des missionnaires ici-bas. Nous sommes entourés de gens qui courent à la ruine. Nous sommes des missionnaires autour d'eux. Et ce que les gens du monde voient en nous, notre parvis, doit les amener à s'interroger sur celui qui remplit nos cœurs. Amen. Amen. Et si ça peut leur donner envie de devenir chrétien, de donner leur vie au Seigneur. D'abord de se repentir, oui, c'est vrai. Alors veillons les uns sur les autres, on va arrêter, hein, pour grandir dans l'amour, dans la charité. C'est d'une importance capitale pour nous permettre d'accomplir correctement la mission que le Seigneur nous a confiée et qui consiste à amener les pécheurs perdus au pied de la croix de Golgotha, la croix de Jésus-Christ. Amen. Amen.